Nous allons prendre notre Bible et aller jusqu'à 2 Rois et le chapitre 6. On commencera à lire au verset 24. Mais avant de lire, de plonger dans cette lecture-là, je voudrais rappeler beaucoup de choses que nous connaissons déjà. Je réfléchissais personnellement à tout ce que la Bible promet et qu'elle qualifie d'éternel. Il y a tellement d'endroits dans la Bible où certaines choses sont appelées éternelles. Je vous donne un exemple. Le premier qui me vient, c'est ce verset qui nous rappelle l'amour éternel de Dieu. De loin, l'Éternel se montre à moi et dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Est-ce que ça vous fait plaisir de savoir que Dieu nous aime d'un amour éternel ? Il y a d'autres passages qui nous disent « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite ». Dans la présence de Dieu, il y a toutes ces choses. Autre passage, Dieu, notre Père, nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Une source abondante de paix et de fidélité. Est-ce que ça vous intéresse de connaître cette source-là ? Il y en a qui la connaissent déjà. Mais est-ce que peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas accès à ces choses-là, serait intéressé ? Je continue, je vais rapidement. Ta justice, il parle à Dieu, est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, et là j'en ai pris que quelques-unes, mais il y a beaucoup d'endroits où des choses que le Seigneur voudrait donner à ses enfants sont qualifiées d'éternelles. Et moi j'avais cette image, en préparant ce message, j'avais vraiment cette image. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu pendant ces vacances de Noël, un dessin animé. J'ai regardé un dessin animé, vous me pardonnez. Mais il y avait une image qui était belle dans ce dessin animé, c'était l'histoire d'animaux qui étaient dans le désert parce qu'il y avait des hommes qui avaient créé un barrage et ils étaient dans la sécheresse. C'est quelque chose de très simple. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à cette vérité que souvent, on se trouve dans la même situation. La Bible nous parle de l'amour, la joie éternelle, la paix, la fidélité, beaucoup de choses qui sont en abondance dans la présence de Dieu. C'est comme s'il y avait une réserve incroyable de bénédictions et que les hommes avaient créé des barrages pour ne pas y accéder, et que nous, on se retrouvait dans la famine spirituelle. Alors que les animaux, ils étaient là devant un mur immense, et derrière ce mur, il y avait l'eau. Mais là où ils se trouvaient, il y avait la sécheresse. Et souvent, on est dans cette situation. Alors que c'est à portée de main, il y a juste l'épaisseur d'un mur qui sépare la bénédiction, et pourtant on n'est pas béni. Et j'ai cité toutes ces choses pour vous montrer que la Bible est remplie de ces choses-là, de ces bénédictions, de ces grâces que le Seigneur voudrait faire couler sur chacune de nos vies. Est-ce que vous croyez que les hommes, aujourd'hui, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de joie et de délices éternelles, pas les joies de ce monde? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de consolation, mais d'une consolation éternelle? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de paix et de fidélité abondante? Ou est-ce que vous regardez ce monde et vous dites, non, ça, tout va bien, c'est parfait, c'est merveilleux? On est d'accord que ce n'est pas le cas. On se rend compte que oui, on a besoin que cette eau vive de la présence de Dieu puisse abonder en chacun de nous. Et je voudrais qu'on puisse, avant encore d'aller dans cette lecture, nous souvenir d'un endroit où Jésus a parlé de la vie éternelle, encore une fois. Mais il a dit ceci, juste avant, c'est Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait, encore une fois, en abondance. La vie éternelle, la vie en abondance. Mais Jésus, avant de pouvoir parler de cette vie abondante et éternelle, il met en garde les disciples en leur disant, moi, je veux vous donner la vie, mais il y a un voleur. Il y a quelqu'un qui est là avec des mauvaises intentions et on les a lus, dérober, égorger, détruire. Et le récit qu'on va lire, on va se rendre compte qu'il y a un ennemi qui illustre bien les forces du mal, Satan qui existe bien, Satan qui est bien réel et qui veut nous voler tout ce que Dieu veut nous donner. Et combien on a besoin de réaliser que si on ne veille pas, on en a parlé déjà plusieurs fois, si on n'est pas attentif, on peut passer à côté de la grâce de Dieu, parce que le Seigneur nous prévient, il y a un voleur. Mais il faut faire certaines choses pour pouvoir accéder à ces grâces. Et nous pouvons commencer donc notre lecture. 2 Rois chapitre 6, verset 24. « Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 sicles d'argent. » On va au verset 31. « Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, Élisée c'était le prophète, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez !» Et quand dans la Bible il est écrit « Écoutez », je crois qu'il faut écouter. « Quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-les avec la porte, le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait, « Voici ce que ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel, « Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle, et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Hétiens, et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes, comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Et on va au verset 16. « Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle. » Qu'est-ce qu'il est marqué ?« Selon la parole de l'Éternel. » Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 sicle. Demain, à 7 heures, l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, tu n'en mangeras point. Et c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Qui voudrait une mort pareille ? Vous savez, des fois, on réfléchit à comment on va mourir et on peut se dire, est-ce que ça, c'est une mort qui est enviable ? Piétinée par les gens qui avaient faim, qui étaient pressés par la faim et qui couraient vers l'endroit où il y avait la nourriture. C'était quelque chose d'horrible. Et quand on lit ce texte, on se rend compte, il y a même un passage que j'ai pas lu, mais quand on va revenir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur de la ville. Il y a l'ennemi qui est présent, l'ennemi est là, et il est en train d'assiéger, encercler la ville pour pas qu'il y ait de communication avec l'extérieur. Et le résultat est là, c'est que la ville se trouve dans une famine incroyable, au point que les gens sont prêts à payer un prix fort pour une tête d'âne, alors que la loi de Moïse interdisait de manger les ânes. Mais parce qu'il y avait la famine, ils étaient obligés de faire avec ce qu'ils avaient. Et ils sont dans cette famine-là. Et l'armée qui est au dehors, on le voit par la suite, l'armée, elle a de grandes richesses par contre. Elle a de grands biens. Elle est venue et elle a prévu de faire un siège long et qui va durer un moment. Et donc, ils ont prévu d'amener la nourriture, d'amener tout ce qu'il fallait. Ils ont même pris de l'or et de l'argent, on ne sait pas pourquoi ils ont pris ça. En tout cas, ils l'ont pris. Et on se retrouve dans une situation où le peuple de Dieu est à l'intérieur d'une ville enfermée par des murs, dans la famine, et l'ennemi est autour, dans la richesse. Et des fois, on se trouve dans des situations, dans nos vies personnelles, où on a l'impression que ceux qui sont au dehors, ils réussissent, ça, tout va bien pour eux, tout se passe bien. Quand on se souvient du psaume d'Azaph qui regardait justement avec envie, à un certain moment, il avait l'amertume dans l'âme, il regardait les gens qui réussissaient, qui craignaient pas Dieu et pour qui tout allait bien. Mais à un moment donné, il a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tout ça, c'était compliqué jusqu'au moment où j'ai accepté d'aller dans la présence de Dieu. Quand j'ai pénétré dans les sanctuaires de l'Éternel, alors là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous avons besoin cet après-midi de faire cette démarche spirituelle, de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu afin d'ouvrir la réalité sur les choses qui sont autour de nous. Oui, ces gens peut-être sont dans l'abondance de biens matériels, mais ils n'échappent à toutes ces promesses que le Seigneur a faites, cette joie et ces délices éternelles, cette consolation éternelle, cette espérance éternelle qu'un jour nous allons voir le Seigneur Jésus, ce salut éternel qui commence dès maintenant, mais qui se concrétisera quand le Seigneur Jésus va revenir. Toutes ces choses, ils n'y connaissent pas. Et voilà pourquoi il ne faut pas jalouser, je vais dire, les gens à l'extérieur. Mais on voit plusieurs catégories de personnes. La première catégorie de personnes qui est dans la ville, qu'on n'a pas lu précisément, mais dont vous vous souvenez, c'est deux femmes. Deux femmes qui interpellent le roi à un moment donné. Le roi, il est là, il est dans une situation désespérée parce que c'est lui qui a la charge du peuple. Et il voit les gens qui sont en train de mourir de faim, il croise dans la rue des gens qui ont perdu plein de force, plein de kilos, tout maigre, et il est interpellé par deux femmes. Et il y a une histoire terrible quand on connaît cette histoire. C'est deux femmes qui avaient décidé qu'un jour elles allaient manger l'enfant de l'un et l'autre jour elles allaient manger l'autre enfant. C'est quelque chose d'horrible. Pour tous les parents, vous comprenez que c'est quelque chose d'horrible. Qui oserait toucher à ses enfants? Dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, est-ce qu'on préférait pas donner notre vie, nous, pour que les enfants survivent? Mais voilà, je dis vraiment dans le pire des cas. Mais vous voyez que là, c'était une mentalité totalement différente. Et ça nous parle de ces personnes qui sont prêtes à sacrifier même leurs proches, qui sont prêtes à sacrifier même les personnes qui sont avec eux, leurs enfants ou leurs parents, pour bénéficier d'un certain confort. Quand je vois certaines familles, certaines personnes âgées, par exemple, qui ne sont pas visitées, parce qu'on n'ose pas sortir de notre confort personnel, parce qu'on n'ose pas, nous, renoncer à certains plaisirs de ce monde, je me dis, est-ce que Seigneur, on n'est pas comme ça certaines fois? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de revenir au Seigneur et de dire pardon, pardon éternel? Aide-moi à avoir cette capacité d'aimer mon prochain comme moi-même, de l'aimer véritablement comme moi-même. Ces personnes, ces deux femmes en particulier, elles sont bien sûr dans la ville entourées de murs fortifiés. Samarie, c'était la capitale du royaume d'Israël. Jérusalem, c'était la capitale du royaume de Juda. Mais Samarie, c'était une grande ville, et avec des hauts murs et des soldats. On voit bien qu'il y avait des gardes tout autour. Mais ces femmes, elles étaient surtout dans leur cœur, dans des murs. Et elles avaient besoin de sortir de ces murs pour pouvoir être touchées par la grâce de Dieu. Et ces femmes, leur mur qu'elles avaient dans le cœur, c'était le mur du confort, le mur du bien-être, le mur peut-être de la carrière, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est dans des temps où on met beaucoup l'accent sur la carrière. Il faut que tu réussisses professionnellement. Et bien sûr que c'est important. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de notre famille. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment des personnes qu'on aime. Où en sommes-nous à ce niveau? Je pose la question et je me mets dans le lot, hein, bien sûr. Mais je remarque quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a accepté de tuer son enfant pour qu'il y ait un bien pour tous les autres, c'est Dieu. Il a accepté que son fils soit livré à la mort. Jésus lui-même, il a accepté de mourir pour que nous puissions accéder à la vie éternelle par la grâce de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est bon. Le fait de manger son enfant pour survivre, ça, c'est pas bon. Et on est tous d'accord. Mais Dieu lui a accepté de donner son enfant pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, pour que nous puissions sortir de nos murs d'égoïsme, de nos murs d'attirance à toutes ces choses de la terre, pour que nous puissions aller vers les autres. Deuxième catégorie de personnes, et c'est celui que nous avons lu, le roi qui est aveugle. Et qu'est-ce qu'il fait ce roi? Le roi, il est qualifié par Élisée du fils d'assassin parce que il est le fils d'Akab. Vous vous souvenez de qui est Akab? Qui se souvient de qui est Akab? Akab, pourquoi Élisée a dit que c'était un fils d'assassin? Parce que Akab, il a convoité une vigne. Il avait une vigne sous sa fenêtre qui était magnifique, avec des beaux raisins, et il a choisi de faire monter tout un stratagème sous couvert d'une forme religieuse pour pouvoir accuser le propriétaire de la vigne, pour pouvoir s'emparer de la vigne. Donc il a fait tuer l'homme, l'homme a été lapidé parce qu'il y a eu des faux témoignages contre lui, et le roi s'est approprié la vigne par la suite de cette histoire. Et Élie, qui était à ce moment-là le prophète, il est venu le voir, tu as tué cet homme. Élisée connaissait bien l'histoire puisqu'il était le serviteur d'Élie, et il lui a dit, toi tu es le fils d'un assassin. Mais ce n'est pas parce qu'on est le fils de quelqu'un qui a péché qu'on est forcément pécheur dans ce sens-là, qu'on porte la faute du péché. Mais quand Élisée dit fils d'assassin, c'est parce qu'il a gardé cette mentalité-là. Il ne s'est pas repenti, il n'a pas même regretté ce que son père avait fait. Il est resté dans cet état d'esprit. Et on peut lire toutes sortes d'exemples, je vous laisse le soin de le faire, où on voit que ce roi est méchant. Mais quand les règnes débutent dans les livres des rois, à chaque fois il y a une phrase qui est donnée. Et pour ce roi, il est dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était ça surtout son défaut à ce roi. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et au verset 33, on a lu, même s'il a envoyé son messager pour le dire, c'est lui qui disait ça, « Voici ce mal, la famine dans laquelle je suis vient de l'Éternel. » Et on se rend compte que ce roi qui était chargé d'être une bénédiction pour ce peuple, il avait une vision totalement faussée de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il disait, « Le malheur que j'ai en ce moment, c'est la faute à Dieu. » Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de reprocher nos malheurs au Seigneur? Et de se plaindre. Seigneur, tu vois, je vis ça, mais si je n'avais pas obéi, eh bien, peut-être que j'aurais échappé à ces choses. Et des fois, on est dans des sentiments comme ça, où on remet en question beaucoup de choses. Et au verset 31, il a une intelligence humaine qui transparaît parce qu'il pense que pour que la situation se règle, il faut tuer le prophète. Est-ce que ça allait changer quelque chose que Élisée ait la tête sur les épaules ou pas? Pour la famine, je parle. Pour Élisée, je pense que oui. Mais pour la famine, est-ce que ça allait régler la situation? Je crois même que ça allait l'empirer. Parce que moi, je crois que si Dieu a intervenu en faveur de son peuple, c'est en particulier parce qu'Élisée il a intercédé. Parce que Dieu a pu trouver un homme dans ces murs-là qui intercède en faveur du peuple pour que Dieu fasse grâce. Et s'il avait coupé la tête, peut-être qu'il n'aurait pas pu intercéder, peut-être que Dieu ne serait pas intervenu. Vous comprenez? Des fois, on veut régler les choses avec nos raisonnements humains à nous. « Ah, si je fais ça, ça va régler la situation. Ou du moins, je vais me venger et au moins, je serai satisfait. » Et si des fois, on a cette impression qu'en se vengeant, ça va nous procurer du bien, mais la parole de Dieu nous dit non. C'est pas comme ça que ça marche. Et nous devons pas nous cacher derrière les murs des raisonnements humains. Nous ne devons pas essayer de réfléchir à nos situations avec notre intelligence humaine, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur nous donne toutes choses par grâce, et ce n'est pas par les raisonnements humains. Et quand on se cache derrière ces murs, on est coincé. C'est comme ce barrage qui est là devant nous, et on ne peut pas accéder à la bénédiction de Dieu. Est-ce que nous sommes obéissants au Seigneur ? Est-ce que nous sommes obéissants à sa parole ? Ou est-ce que nous essayons de tout remettre en question ? Quand ça ne nous convient pas, tel verset il me gêne, ou alors on ne le lit pas, ou alors on déchire la page, ou alors on se contente. Vous savez, il y a des gens qui ont des Bibles à la maison, mais ils préfèrent lire l'Évangile. Juste l'Évangile, parce que là c'est un peu mieux. Parce qu'il n'y a pas tous les versets compliqués ou qui remettent en question beaucoup, quoi qu'il y en a dans l'Évangile hein, quand même. Vous savez, on choisit les passages qu'on veut lire. Et si humainement, on choisissait les passages qui nous intéressent, je crois que la Bible, il ne resterait pas grand-chose. Hein, au final, il y aurait quelques pages qui traîneraient par-ci, par-là. Mais quand on comprend que l'intelligence humaine est un mur qui nous sépare la présence de Dieu, ben alors on se dit, Seigneur, moi je veux être obéissant à ta parole. Je veux être obéissant à ta vérité. Je veux véritablement me laisser sanctifier par ta parole. Au verset 1er du chapitre 7, il y a un autre homme qui apparaît, c'est l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a cette particularité, il est en communion avec Dieu. Et au chapitre 3, il y a le roi de Juda justement qui parle de lui, en ces mots, verset 11, chapitre 3, verset 11, « Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit, regardez ce qu'il est dit de cet homme de Dieu, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Est-ce que Dieu, cet après-midi, en nous regardant, peut dire « La parole de l'Éternel est avec lui. » C'est quelqu'un qui garde ma parole. C'est quelqu'un qui aussi annonce ma parole. C'est quelqu'un qui est utilisé par moi pour que ma parole soit transmise aux uns et aux autres. Pour que ça soit, même si c'est une parole sévère, même si c'est une parole de correction, même si c'est une parole de bénédiction. En tout cas, au moment où ça s'est passé, ça a été une parole de révélation de quelque chose qui allait se passer le lendemain. Est-ce que c'était une mauvaise parole, ce qui a été dit ? Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Est-ce que vous croyez que Élisée était quelqu'un qui était attentif à toutes les marchandises qui passaient et qui était à la bourse du coin et qui regardait les prix de la farine, il regardait les prix d'autres choses. Il était là, il connaissait tout, l'orge par cœur, le cours de l'orge, le cours de... Ou est-ce que c'était simplement parce qu'il avait la parole de l'Éternel ? À votre avis ? Parce qu'il avait la parole de l'Éternel, parce qu'il était en communion avec Dieu. C'était un homme de Dieu. Est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur, de sorte que cette parole travaille dans notre cœur ? Et il y a cette promesse que Dieu a faite, il a dit qu'il était riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et voilà pourquoi, dans sa richesse, il a voulu intervenir en faveur de ce peuple qui était dans la famine. Est-ce que vous croyez que Dieu peut intervenir ? Si vous êtes dans une famine, dans un niveau, dans un domaine ou dans un autre ? Dans une famine spirituelle, dans un besoin particulier qui est là dans votre cœur, que ça fait des mois peut-être que vous traînez en vous, est-ce que vous croyez que Dieu est assez riche pour pourvoir ? Est-ce que vous croyez que Dieu veut le faire, que Dieu veut bénir ses enfants ? Ou est-ce que c'est moi qui interprète mal la Bible ? Moi je crois en un Dieu qui est bon envers ses enfants. Je crois que l'Éternel est plein de compassion, riche en beauté, riche de toutes ces grâces qu'il veut manifester, mais c'est souvent nous-mêmes qui nous cachons loin de sa face, qui nous éloignons de toutes ces grâces. Oui, Dieu peut intervenir quelle que soit la situation. Est-ce que vous croyez que Dieu accomplit ce qu'il promet aussi ? Alors Dieu veut le faire. Et quand il a utilisé cet homme de Dieu, c'était pour donner une parole d'espérance. Une parole d'espérance, mais il y avait cette parole d'espérance, il y a eu aussi une parole de malheur pour quelqu'un. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs choses dans son cœur. Au verset 2, on voit que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'était le bras droit du roi, si vous voulez, il répondit à l'homme de Dieu, quand il a entendu une bénédiction, on lui disait que la famine allait être finie, qu'est-ce qui se passe dans son cœur ? Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose arriverait? Est-ce que vous croyez qu'il avait beaucoup de foi, cet homme-là? Même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce qu'une chose pareille ne pourrait pas arriver? C'est ça qu'il était en train de dire. Et on voit que c'était un bras droit, et le bras droit de pas n'importe qui, c'était le bras droit du roi. Et comme on l'a vu, le roi, ce n'était pas un homme bon. Et si le gars, c'était son bras droit, on pense bien que ce n'était pas un homme bon. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ma logique? Il peut y arriver que des fois, on ait un patron qui soit mauvais et que nous, on sert le Seigneur de tout notre cœur. Le Seigneur nous éprouve par ce moyen-là. Mais là, on se rend compte, par rapport à ce qu'il dit, on se rend bien compte que ce n'était pas quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'ancré dans la foi. Moi, je crois que c'était quelqu'un qui avait la soif de pouvoir. Ici, il était le bras droit, c'était justement pour essayer de monter dans les échelons, pour essayer d'acquérir de l'influence, pour essayer d'aller plus loin dans sa carrière. Mais ses sentiments dans son cœur l'empêchent d'accéder à Dieu, l'empêchent de saisir la promesse. Il avait aussi un manque de respect pour Dieu. On le voit dans ses paroles. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, il prend le nom de l'Éternel en vain, vous ne croyez pas ? Quelqu'un qui a un manque de respect pour Dieu. Je crois que ce manque de respect, ce manque de soumission dans son cœur face à Dieu, Dieu c'est pas n'importe qui, c'est le créateur du monde, créateur de l'univers. Ça vous est jamais arrivé de regarder la nuit, les étoiles, aller un peu en campagne pour pas être gêné par les lumières de la ville, et regarder les étoiles et se dire, oui Dieu, c'est toi qui as créé tout ça. Combien je suis petit face à toutes ces milliards d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se soumettre au Dieu Tout-Puissant? Moi, je suis interpellé dans mon cœur quand je réalise que ce Dieu-là, qui a créé tout l'univers, il est capable de se révéler à chaque personne en particulier, un par un, de nous dire une parole en particulier par son Saint-Esprit, parce qu'il nous aime. Lui qui est si puissant, lui qui est si saint, lui qui est si parfait, il accepte de s'abaisser jusqu'à nous parler à nous, un par un. Et je trouve ça remarquable. Et ce manque de soumission dans le cœur de cet homme fait qu'il est empêché d'être touché par Dieu. Encore une autre chose, il est totalement incrédule. Et son incrédulité, je crois que c'est ça le pire pour lui, son incrédulité va le priver de la grâce de Dieu. Parce que le résultat, on l'a lu au verset 17, c'est que c'est lui qui avait la garde de la porte, mais le peuple qui avait tellement faim, ils ont bousculé la porte, je ne sais pas si la porte n'est pas tombée, peu importe comment ça s'est passé, il s'est retrouvé à être piétiné. Lui qui était à la porte, il a vu le camp des Syriens, il a vu peut-être la nourriture qui abondait, il a vu les trésors, il a vu toute la richesse qu'il y avait au dehors. Il a seulement vu. Est-ce que vous êtes heureux de voir toutes les promesses de la parole de Dieu? Amen. Mais moi, je ne suis pas satisfait de seulement les voir. Moi, je veux aller plus loin. Je veux les vivre. Je veux y goûter. Je veux bénéficier de ces grâces jour après jour. Parce que je crois que c'est le programme de l'Éternel pour chacun de nous. Bénéficier de ces grâces-là. Et comment faire cela? C'est surtout en n'imitant pas l'exemple de cet homme. Cet homme a été le seul qui a vu les richesses et qui n'a pas goûté. Il est mort toujours dans la faim. Il est mort dans la famine spirituelle. Il est mort dans cet état d'esprit-là. Est-ce que nous aimons la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes comme cet homme-là? Est-ce que nous sommes rebelles ou incrédules face à la parole de Dieu? Si c'est le cas, nous allons être séparés par ces murs de la présence de Dieu, de ses grâces. Mais si nous acceptons de nous soumettre, si nous acceptons de faire comme c'est lépreux que nous allons voir, si nous acceptons simplement d'avoir la foi dans la parole de Dieu, Dieu avait fait la promesse, demain il y aura la nourriture, avec telle ou telle condition, demain il y aura la nourriture en tout cas, à tel prix. Seigneur, je veux le croire. Même si ça me paraît fou, même si ma situation me montre tout l'inverse, même si j'ai l'impression que l'ennemi cerne encore ma vie, je veux croire que ta parole est vraie, que ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et des fois, on a besoin, souvent même on a besoin, que la parole de Dieu sanctifie nos vies, qu'elle purifie tout ce qui n'est pas de Dieu, qu'elle nous montre les vraies choses, les réalités spirituelles. C'est exactement la même histoire qui s'est passée juste avant, quand Élisée était à un endroit, il était dans sa maison, et qu'il y avait toute l'armée qui entourait encore, il était cerné par l'armée du roi de Syrie. Mais il était dans le repos. Il était dans la paix. Et son serviteur, lui, il n'était pas dans le repos, pas dans la paix, il était dans la crainte, dans la terreur. Il regardait, il comptait le nombre de soldats, il comptait le nombre de chevaux, il regardait les épées, les boucliers, il regardait tout ça, et il était terrifié. Mais Élisée, il a prié, et cet homme, ce serviteur, il a pu voir ce qu'Élisée réalisait par la foi. Il a pu voir que l'armée de Dieu Tout-Puissant était plus nombreuse. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas peur. Il était entouré de l'armée de Dieu. Est-ce qu'on réalise que le Seigneur, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la famine spirituelle qu'on vit, Seigneur, il nous entoure. Et l'ennemi n'est pas le plus fort. Il y en a un qui a été plus fort que l'ennemi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne voudrais pas m'attarder plus sur cet homme. Je voudrais finir avec cet exemple des lépreux, qui nous montre ce que nous devons faire. Les lépreux, ils avaient cette particularité de ne pas être dans les murs de la ville. Pourtant, dans leur cœur, ils avaient des murs encore qui les retenaient. Dans leur cœur, il y avait le mur de la résignation. Pendant un certain temps, ils sont restés entre les deux camps, entre la ville et entre le camp des Assyriens. Des Syriens. Et ils se sont résignés parce qu'ils disaient, de toute façon, quand on rentre dans la ville ou qu'on reste là, on va mourir. Et pendant un certain temps, ils sont restés dans cet état d'esprit. Mais à un moment donné, ils sont sortis de leur mur qui était dans leur cœur. Ils sont sortis de leur résignation. Et ils ont dit, mais quand on rentre dans la ville, on va mourir. Quand on reste là, on va mourir. Alors autant aller dans le camp des Syriens. Et même s'ils étaient prêts à mourir, parce que de toute façon, c'était leur condition, ils ont choisi de se bouger, excusez-moi l'expression. Ils ont choisi de faire quelque chose. Ils ont choisi, et c'est cette expression que je voudrais qu'on retienne, de sortir de leur mur, tout simplement. Sortir de leur mur. Et je ne sais pas quel mur est là dans notre cœur et nous empêche de vivre la bénédiction que le Seigneur voudrait qu'on vive. Et il y en a tellement, j'en ai cité plusieurs. L'égoïsme, le fait d'avoir une bonne carrière dans ce monde, c'est très bien. Mais est-ce que si ça prend la place de Dieu, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien parce que ça devient une idole. Peut-être que c'est un bien-être personnel, un confort qu'on ne veut pas négliger et qui nous empêche de prendre du temps à la présence de Dieu, un loisir, je ne sais pas. Et ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que c'est. C'est au Saint-Esprit de vous le dire. En tout cas, si nous restons dans ces murs-là, nous restons dans la famine. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Qu'est-ce qu'ont fait les lépreux en premier? Ils ont choisi de sortir de leur état dans lequel ils se trouvaient. Ils ont choisi d'aller plus loin. Je ne sais pas s'ils ont entendu la parole d'Élisée. Je pense que même pas qu'ils l'ont entendu, mais je pense qu'ils ont été conduits dans leurs circonstances. Qui mieux qu'eux pouvaient réaliser leur misère personnelle? Eux qui étaient depuis tant et tant d'années les rebuts de tous les hommes, les gens les méprisaient. Quand il y avait l'abondance dans la ville, vous savez que souvent dans ces cas-là, on jetait de la nourriture par-dessus les murailles pour nourrir les lépreux. Mais là, ils étaient dans la famine. Plus personne pensait à eux. Les gens, déjà, ils essayaient de penser à la nourriture pour eux. Là, ce n'était plus le cas. Les lépreux, ils étaient complètement abandonnés. On avait mis une croix dessus. Plus personne ne pensait à eux. À cause de rien qu'en regardant leur corps, ils sentaient leur misère. Et voilà pourquoi ils ont pu être les premiers à aller bénéficier des trésors. Parce qu'ils ont compris les premiers qu'ils étaient dans la misère s'ils restaient dans l'état dans lequel ils étaient. Tout simplement. Est-ce que nous ne voulons pas suivre leur exemple? Seigneur, je réalise que tout seul, si je m'appuie sur mes forces, je suis dans la misère. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la parole de Dieu ne le dit pas à de nombreuses reprises? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en Dieu. Et nous voulons être de ces hommes-là qui se confient, de ces hommes et de ces femmes qui se confient en Dieu. En tout cas, ils auraient pu rester dans l'inaction, ils ont choisi de sortir de leur mur de résignation, de leur mur de « Ah, mais de toute façon, c'est comme ça, de toute façon, ça fait tant et tant d'années que ça n'a pas bougé, alors pourquoi ça changerait ?» Et ils ont choisi de faire autre chose. Ils ont bénéficié des trésors, des richesses, la nourriture, tout ça. Mais à un moment donné, ils ont été repris dans leur cœur. Repris, et moi j'aime comment c'est dit, au verset 9, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, pourquoi? Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que moi j'ai goûtée, la bonne nouvelle que les trésors sont au dehors, je veux la partager au peuple. Eux qui sont encore dans la famine, eux qui sont encore dans ces murs et emprisonnés, dans toute cette réalité du quotidien qui fait que c'est difficile, il y a un besoin, le ventre qui crie famine. Je veux partager la bonne nouvelle. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette condition? Si nous sommes déjà au Seigneur, est-ce que le Seigneur ne nous rappelle pas par ce texte que cette journée, aujourd'hui, et demain, et après-demain, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et nous voulons partager cette bonne nouvelle que le Seigneur Jésus a remporté la victoire. Parce que est-ce que c'est les lépreux qui ont gagné la bataille? Est-ce que c'est le roi qui a gagné la bataille? Est-ce que c'est les deux femmes qui ont gagné la bataille? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui a gagné la bataille? D'une certaine manière. Mais qui c'est qui a... Alors, c'est bien dit, hein. Au verset 6, il est dit, le Seigneur avait combattu. C'est le Seigneur qui s'est débrouillé tout seul parce qu'il est infiniment grand, infiniment puissant. Il n'a pas eu le besoin qu'un homme intervienne. Le Seigneur a fait fuir l'ennemi. Et souvent, on est là à combattre, on essaie de chasser l'ennemi, on essaie de donner des noms à des choses dans notre vie pour s'en éloigner. Alors que la seule chose qu'on a à faire, c'est de sortir de tout ce qui nous sépare de la présence de Dieu, sortir de nos murs et d'aller vers le Seigneur, parce que lui, il a déjà remporté la victoire. Colossiens chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Celui qui a remporté la victoire, c'est Jésus en donnant sa vie à la croix. Et même si aux yeux humains, la croix, c'est une défaite, aux yeux, si on regarde avec la foi, les yeux spirituels, on se rend compte que c'est une véritable victoire parce que à ce moment-là, l'ennemi de nos âmes qui nous tenait captifs, qui nous tenait emprisonnés, qui encerclait nos vies pour nous garder dans le malheur et loin de Dieu, il a été battu. Il a été jugé. Et maintenant, nous pouvons accepter. Nous pouvons accéder à ce fleuve de grâce qui coule de la présence de Dieu. Est-ce que nous voulons cet après-midi encore sortir de nos murs, faire comme ce peuple? Parce que qu'est-ce qu'a fait ce peuple? Ils ont entendu la bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû sortir de la ville. Vous êtes d'accord? Ils auraient pu accepter la bonne nouvelle et peut-être composer des cantiques. Ah, c'est merveilleux, le Seigneur me délivre, chasse l'ennemi et rester dans la ville. Est-ce que ça aurait réglé la situation de leur ventre? Il fallait qu'ils aillent dehors pour se servir. Est-ce que nous ne devons pas aller hors de nos murs, hors de tout ce qui nous retient en arrière et accéder à toutes les richesses que le Seigneur a mis en réserve pour chacun de nous? Alors que nous puissions rechercher l'Éternel, que nous puissions nous tenir dans sa présence, que nous puissions sortir de toutes ces choses qui nous séparent de la présence de Dieu, nous séparer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Est-ce que ça, c'est pas l'important? Est-ce que nous n'avons pas le besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, révèle-moi encore, si cet après-midi, dans mon cœur, il n'y a pas un mur qui est là et qui empêche que ta main bénissante se pose sur ma vie, qui empêche que la lèpre qui est là dans mon cœur à cause du péché soit totalement guérie. Est-ce qu'il n'y a pas un mur, Seigneur? S'il y en a un, montre-le-moi. Et si tu me le montres, Seigneur, je ne veux pas rester là, je veux en sortir par la grâce. » afin d'aller puiser toutes les richesses que tu as mis en réserve pour tous tes enfants, tous ceux qui auront la foi, tous ceux qui voudront goûter à toutes ces choses qu'on a citées au début, l'amour éternel, la consolation, le salut, la joie, les délices, la justice, la vie, la puissance éternelle, toutes ces choses que le Seigneur veut donner à ses enfants, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel est la compassion de nous. Il ne veut pas que nous restions dans notre famine, mais il veut que nous allions plus loin. Il a mis ces choses en réserve, à nous de les saisir par la foi. Que son nom soit béni. Amen. Merci Éternel pour l'héritage que tu as fait à chacun de nous, Seigneur. Combien nous sommes bénis de toutes ces bénédictions spirituelles. Seigneur, nous le réalisons, mais nous ne voulons pas être loin de ces choses. Nous ne voulons pas seulement les voir de loin comme cet homme et périr dans notre famine, périr dans notre incrédulité, périr dans nos murs, dans toutes ces choses qui nous retiennent en arrière. Seigneur, nous voulons sortir de tout cela, sachant que tu as déjà remporté la victoire. C'est toi qui as combattu, Seigneur, et tu nous aides en plus à aller au-dehors. Ta parole nous aide, ta parole nous encourage, ta parole nous révèle tout ce qui est là et qui se met en travers du chemin. Seigneur, nous voulons que ta parole nous sanctifie dans ces moments. Merci pour ton Saint-Esprit qui parle au cœur. Tu connais les personnes qui sont là, tu connais peut-être les raisonnements dans les cœurs, tu connais ces ambitions de travail qui sont là et qui prennent ta place. Tu connais ces ambitions de confort, de loisirs, peu importe. toutes ces choses qui voudraient prendre ta place, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, je te demande par ton Saint-Esprit de nous convaincre que la bénédiction, elle se trouve dans ta présence, tout simplement. La bénédiction, elle se trouve auprès de toi. Seigneur, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Seigneur, cet après-midi, nous voulons être de ces hommes qui ont la foi et qui te craignent. De ces hommes qui ont la foi en ta parole, qui tremblent à ton nom, parce qu'ils savent que tu es un Dieu vivant, mais un Dieu juste, un Dieu puissant, mais un Dieu qui revient aussi juger tous ceux qui demeurent sous la colère. Seigneur, nous ne voulons pas être sous la colère, nous voulons être des enfants de lumière. Cet après-midi, nous voulons encore que tu puisses, par ton Saint-Esprit, révéler toutes ces choses dans nos cœurs, afin que nous puissions accéder à ces richesses que tu as mises en réserve pour nous, Éternel. Nous croyons que tu nous aimes et nous te bénissons pour cet amour que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas ces grâces, nous ne méritons pas cette victoire que tu nous as acquise et pourtant nous l'avons, Seigneur. Alors nous voulons te bénir. Oui, Seigneur, prends nos vies encore cet après-midi. Seigneur, nous voulons nous repentir de ces choses qui sont là que tu nous montres, Seigneur, afin que nous puissions faire des progrès, aller plus loin avec toi. Seigneur, que nous puissions sortir de tous ces murs et que nous puissions saisir ta grâce. Que ton nom soit béni. Amen.